Hey, c'était bon, hein? Gloire à Dieu, merci. Et merci à l'équipe de louanges. Il y en a qui étaient là hier soir, même à Momentum. Donc, ils ont travaillé pas mal fort. Grosse fin de semaine pour eux. Merci beaucoup. Eh bien, un beau témoignage et ce qu'on a remarqué, on entend presque toujours un verset de la Bible lorsqu'on entend les témoignages. Et c'est le verset qui est le plus populaire dans le monde entier. On pourrait vous demander c'est quoi et vous le sauriez fort probablement. Juste pour vous donner un exemple de la popularité de ce verset-là, et d'ailleurs c'est Henry ce matin qui nous a donné ce partage-là, il nous a donné dans son témoignage, elle a partagé Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'un des versets les plus populaires au monde entier. Laissez-moi juste vous donner un exemple de la popularité de ce verset-là. Je ne sais pas si vous connaissez Tim Tebow, l'ancien joueur de football. Il jouait pour les Gators au début de sa carrière, là, et puis en Floride. Et il avait l'habitude d'inscrire Jean 3,16 sur son visage. Il écrivait d'autres versets de temps en temps, mais il était reconnu pour Jean 3,16. D'ailleurs, c'est devenu un peu il était vraiment reconnu pour ça, si bien qu'il a fait même la première page de quelques revues dans sa grande popularité. Et puis, il y avait encore Jean 3,16, juste pour vous donner un exemple. D'ailleurs, juste pour vous montrer comment c'était fort, il y a eu un moment donné, il y a eu un match, un très, très bon match. Et après le match et pendant le match, il y avait ce verset, Jean 3,16. Et il y a eu plus de 90 millions de personnes qui sont allées sur l'Internet, qui ont googlé Jean 3,16 pour comprendre la signification de ce verset-là. Imaginez-vous donc, 90 millions de personnes. Et il y a une raison pour ça, il y a une raison de la popularité de ce verset-là, que ce verset est devenu si célèbre. Et pourtant, il y a plusieurs personnes au Québec qui ne le connaissent pas. Moi, lorsque un de mes clients m'a parlé de Jean 3,16, je n'avais jamais entendu parler de Jean 3,16. De fait, je n'avais jamais vraiment lu la Bible, je ne connaissais pas les Écritures. Mais Jean 3,16, c'était tout à fait nouveau. Un magnifique verset, il y a une raison pour ça. Court verset, après tout, juste une trentaine de mots, 139 caractères, donc on peut même le mettre sur Twitter, tellement c'est petit. Et pourtant, ce court verset est le sommaire de la bonne nouvelle de toute la Bible au complet. Ça résume pas mal bien le message des Écritures et le plan de Dieu pour l'humanité. Imaginez, un verset, Jean 3,16. Laissez-moi vous le lire à nouveau. C'est tellement clé, tellement important, parce qu'on va regarder la signification de ce verset-là. Jean 3,16, qui dit ceci. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Maintenant, on voit certaines choses dans ce verset. Ce verset, de fait, nous révèle certaines choses, premièrement, de Dieu. On va voir deux aspects de Dieu dans ce même verset. Pour nous qui vivons au Québec, on a de la misère avec l'un des deux. On voit dans un sens que Dieu est amour. On apprend, ce verset nous enseigne, nous montre que, d'une part, Dieu est amour. Mais en même temps, on voit de l'autre côté que Dieu est un Dieu de justice, de colère, de jugement. Après tout, ça dit ici, si quelqu'un croit au Fils, il a donné son Fils afin que si quelqu'un croit en lui, il ne périsse pas. Donc, on parle de jugement ici. On parle de périr, de jugement. Et le verset d'ailleurs qui suit, verset 17 et verset 18, réitère cette notion-là. Nous pouvons lire d'ailleurs au verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, c'est la raison d'être. Ça l'explique ici pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Donc, il l'a envoyé non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En d'autres mots, c'est le chemin pour avoir le salut, la vie éternelle dont parlait Carl tantôt. Celui, verset 18, celui qui croit en lui, en Jésus, place sa foi en lui, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, ça parle, alors le verset 16 nous parle d'un côté que Dieu, dans le même passage, dans le même verset, même phrase, d'un côté, Dieu est un Dieu d'amour. On le voit dans le même verset. Mais de l'autre côté, Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu de colère. Il est un Dieu de jugement. Maintenant, pour nous, aujourd'hui, on a la difficulté à accepter que Dieu soit un Dieu de colère, un Dieu de jugement. D'ailleurs, il y avait une revue, un article dans la revue Newsweek qui disait que les baby boomers sont en train de retourner dans les églises. Il y a un mouvement de baby boomers, un retour aux églises. Mais ce qu'on découvre lorsqu'on scrute, on creuse un peu, on découvre qu'ils choisissent l'église en fonction si on parle du péché ou pas, si on parle de jugement ou pas. En d'autres mots, on va choisir des églises où on ne parle plus de jugement, où on ne parle plus de colère. On ne parle que du Dieu d'amour. Mais quand tu fais ça, tu diminues l'autre. Vois-tu, pour nous, la colère, c'est négatif. La colère, pour nous, et avec raison en passant, parce que pour nous, quand nous nous mettons en colère, souvent, c'est parce que ça dérange notre confort, ça dérange un peu notre bonheur. On est dérangé. Il y a quelque chose qui nous touche, soit notre réputation et tout ça. Lorsqu'on se met en colère, c'est pas toujours pur. L'autre jour, j'allais rendre un service à quelqu'un à Laval. Mais vous savez, Laval, c'est pas à côté. Ça prend presque 2 heures, 1 heure et quelques pour aller là-bas. Donc, j'allais rendre un service à quelqu'un. Je pars de chez nous et tout ça. Et je dois vous avouer que des fois, ça me tente pas mal d'aller à Laval. Des fois, j'aime ça aller à Laval. Mais cette journée-là, ça ne me tentait pas de me taper toute cette route-là, pas toute. Donc, j'y allais à contre-cœur. Ça me tentait vraiment pas. Pas à cause des gens que j'allais rencontrer, je les aime bien. C'est juste la route. Tu sais, en hiver, faire de la route, là, c'est vraiment pas le fun. Je m'en vais. Tu sais, alors, c'était ma journée de congé, puis j'étais avec Lise, on s'en va, puis on s'en va là-bas. Puis j'arrive, je prends la 50. Là, comprenez-moi bien, ça ne me tentait pas d'aller rendre ce service-là, je l'avoue, je le confesse. Alors, je me rends là-bas, j'embarque sur l'autoroute, puis tu sais, ça fait à peu près 1 heure et quelques, tu es sur la route. Alors, je sais pas, je tombe dans la lune, c'est comme je tombe dans une zone, là, tu sais, comme un peu second, là. Tu sais, à un moment donné, tu passes à un paquet d'affaires, puis tu oublies de regarder une petite aiguille juste en avant de toi, là, qui dit « dépasse pas la vitesse ». Puis là, moi, je suis dans mes pensées, je suis parti, j'embarque sur l'autoroute, puis là, mon ami, je suis en train de conduire, puis là, d'un coup, en arrière, « ouais, la police qui commence à courir après moi, elle vient me chercher, puis ça n'a pas pris de temps à me retrouver. Je me tasse là-bas, je tasse la route. Elle était vraiment gentille, une policière, elle vient me voir, elle dit, réalisez-vous quelle vitesse vous faisiez. Je dis, aucune idée. J'étais très honnête. Elle a dit, vous en allez, je ne disais pas, vous ce serait gênant un peu. Elle a dit, vous faisiez tant et tout ça, et mon ami, j'ai dit, excusez-moi, j'étais comme dans la lune, j'arrive de Gatineau et tout ça, j'étais parti dans mes pensées, je ne regardais même plus la vitesse. Elle était super gentille, elle a dit, faites attention, tu sais, on est plusieurs sur autoroute. Je dis, oui, effectivement. Fait quand tu me donnes une étiquette. Je vais être honnête avec vous. Ça ne me tentait pas d'aller à Laval cette journée-là. Là, d'un coup, la colère a commencé à monter en moi. Puis, c'est pas contre elle. Elle était correcte, elle était fine, elle m'avertit, tout ça. Mais elle était obligée de me donner une étiquette. Elle me donne une étiquette, tout ça. J'étais pas en colère contre elle, j'étais en colère contre tout puis rien, tu sais. Je ne tentais pas d'aller là aujourd'hui, puis ça. Hey, comment ça, une colère? Ah, étiquette, ça va me coûter tant, puis ah! Hey, j'étais en colère. Pourquoi j'étais en colère? Dans le fond, c'est parce que mon confort, mon petit bonheur était pas mal dérangé cette journée-là. On a osé déranger mon confort. Fait qu'on peut comprendre Quand les gens disent « Ah, ouais, Dieu, c'est un Dieu de colère », tout ça, parce que tout de suite, nous autres, pour nous, la colère évoque toutes sortes de souvenirs, de mauvais souvenirs et tout ça, des exagérations, etc. Et en même temps, lorsque nous-mêmes, on se met en colère, comme c'est arrivé cette journée-là, c'est pas vraiment pur, mon affaire, tu sais. Donc, on comprend ça. Et on a tendance à attribuer à Dieu cette même colère-là. Donc, on dit que c'est négatif. On veut pas voir un Dieu comme ça. Et pourtant, dans les Écritures, l'Écriture a aucun problème. La Bible n'a aucun problème de parler autant de Dieu d'amour et de présenter le Dieu de colère. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu, elle est parfaitement sainte. Elle n'est pas biaisée. Pas d'injustice. Elle est parfaite. C'est une bonne colère. Alors, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est qu'en fait, l'amour de Dieu et la colère, sa justice, ses standards, sa sainteté, le Dieu de jugement, on voit que les deux se complètent. Elles ne sont pas en opposition, parce que pour nous, on pense que la colère, c'est le contraire de l'amour. Absolument pas. La haine est le contraire de l'amour, mais pas la colère. D'ailleurs, pense-y, quand tu aimes vraiment quelqu'un et que cette personne-là commence à prendre de très mauvaises habitudes, au point même qu'elle menace sa vie, etc., tu vas avoir un paquet de sentiments à l'envers. Par exemple, il y a quelqu'un que tu aimes qui va sombrer dans la drogue. Tu sais que cette personne-là pourrait tellement faire des belles choses dans sa vie, elle est bourrée de talent et tout ça. Et qu'est-ce que tu vas avoir? Elle est en train de se détruire. Tu vas avoir de la colère, tu vas vouloir saisir la personne, essayer de la réveiller, puis essayer de lui dire, écoute, regarde ce que tu es en train de faire, tu es en train de te détruire. Alors, imagine-toi si nous qui sommes imparfaits, nous avons de la colère, une bonne colère, à l'endroit d'une personne qui est en train de se détruire. Combien à plus forte raison Dieu qui nous a créés, qui est parfait, va-t-il avoir de la colère lorsqu'il voit que nous sommes en train de nous détruire par le péché, par le mal? Mais là, il y a un problème. Dieu est parfaitement amour. Son amour est parfait. Mais en même temps, il est un Dieu de jugement et de colère. Et avec raison, une colère qui est parfaite, un jugement qui est parfait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas, son amour pour nous ne peut pas nous laisser aller et nous détruire comme on le fait, parce que le péché, le résultat du péché, c'est la destruction. Il doit juger aussi le péché. La Bible le dit clairement, tous ont péché, sont privés de sa présence, de sa gloire, de sa bénédiction. Il y a un mur qui nous sépare d'avec Dieu et ses bénédictions, et c'est le péché. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort, nous dit les Écritures, Romains 6. C'est le jugement, parce que Dieu se doit de juger, parce qu'il est parfaitement juste, parfaitement saint. Mais en même temps, il nous aime, alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le verset, Jean 3:16, ajoute un autre détail. On apprend que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu de jugement, de colère, et ce ne sont pas en opposition. Mais on apprend aussi que Dieu va envoyer son propre Fils, justement pour nous épargner, pour nous donner un moyen pour nous épargner ce jugement-là, cette colère-là, que l'on mérite. Maintenant, c'est Jésus-Christ, c'est la croix. On ne peut pas se fier qu'à notre culture, il ne faut pas se laisser influencer par ce que les gens disent autour de nous, parce que la culture va changer d'idée au fil des années. Par exemple, il y a à peine 300 ans, juste cette idée-là que Dieu est un Dieu d'amour aurait paru bizarre. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on dit « Dieu est amour ». Ah, si on croit. « Ah, moi, je crois un Dieu d'amour. Ah, mais moi, je ne crois pas un Dieu de colère. » Mais il y a 300 ans à peine, c'était le contraire. Tu parlais d'un Dieu d'amour, c'était bizarre. Surtout même quand les Écritures ont révélé que Dieu, quand les chrétiens ont commencé à parler d'un Dieu d'amour, ça paraissait bizarre pour les gens. On n'avait pas de problème à accepter que Dieu soit un Dieu de jugement, de colère. Aucun problème. Mais que Dieu soit un Dieu d'amour, alors les idées vont changer au fil des années. Alors, il faut retourner aux Écritures, c'est primordial, se fier aux Écritures pour connaître, pour avoir une vision juste de Dieu. Mais il faut aussi se fier aux Écritures pour connaître le chemin de la vie éternelle. Comment avoir une relation avec Dieu? Et le passage nous dit que le moyen d'avoir la vie éternelle. Une expression qui veut dire non seulement la quantité, mais une qualité de vie, dans le sens d'avoir une relation avec Dieu, de rétablir notre relation avec Dieu. Et oui, il y a un élément d'éternité aussi, parce qu'on va rentrer dans le paradis, tous ceux et celles qui sont en Jésus entrent dans le paradis. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a choisi de déverser sa colère, sa justice, l'oblige à juger le péché, mais il le fait sur les épaules de son propre Fils. Et c'est ce que nous dit le verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que si quelqu'un croit en lui, il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Il a donné son Fils. Il a fait un don. Le ciel, Dieu, a fait un don à l'humanité, Jésus-Christ. Et Jésus est allé à la croix. Pourquoi? Pour prendre sur lui les péchés que nous avons commis. Et il a pris sur lui les conséquences du péché que nous, on méritait. Maintenant, le verset ajoute un troisième détail, un détail très important. C'est que pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon de nos péchés, pour avoir cette relation avec Dieu, pour avoir cette relation intime avec Dieu, il nous faut venir à Jésus-Christ. Là, il y a quelque chose qui se passe. Il nous faut placer notre foi en Jésus. C'est uniquement par la foi en Jésus-Christ qu'on peut avoir cette relation avec Dieu. Et ce que la Bible enseigne et révèle, c'est que lorsque tu viens à Jésus par la foi, Dieu devient ton sauveur. Jésus devient ton sauveur. Dieu devient ton père, ton ami, ton protecteur, ton allié. Tu deviens son enfant. Il t'adopte dans sa famille. Et c'est par la foi que ça s'obtient. Pas par les œuvres. C'est par la foi que ça s'obtient. Uniquement par la foi. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle que nous offre ce verset, cette révélation de Dieu. Dieu nous accepte, non sur la base de nos bonnes œuvres, mais en raison de ce que son Fils a accompli sur la croix. En d'autres mots, c'est un don que Dieu fait à celui qui le reçoit, qui reçoit ce don-là. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas encore pris ce premier pas avec Jésus, d'ouvrir votre cœur, comme Irene, Carl, ont fait, et demander à Jésus. Placez votre foi en Jésus. Demandez-lui de vous donner cette vie éternelle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons tout d'abord te remercier pour le témoignage de Carl et Irene, et la façon aussi que tu t'es pris pour aller toucher leur cœur et te révéler à eux. Merci Seigneur. On te prie que tu les bénisses abondamment, que tu les fasses grandir dans la foi. Et s'il y a quelqu'un ici dans cette assemblée qui ne te connaît pas encore comme leur sauveur personnel, on te prie que tu touches leur cœur ce matin, et qui ne quitte pas ce lieu avant de dire oui à Jésus. Pour ta gloire, Seigneur. Amen.